Voilà, Dieu soit glorifié. On va ouvrir un premier texte qui sera notre passage d'introduction dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13. Tout le chapitre 13 nous relate les différentes paraboles que Jésus nous a laissées, paraboles du royaume de Dieu. Et donc on va lire une de ces paraboles. Au verset 31, il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. » Nous connaissons cette parabole et avec ce texte d'introduction, j'aimerais ce matin donner une suite au message de dimanche dernier. Alors je vais rappeler brièvement pour ceux qui n'étaient pas là et pour aussi se rappeler un petit peu. Nous avons vu la semaine dernière que sans le savoir, nous pouvons faire des choses qui viennent de Dieu, des choses conduites par Dieu. Et rappelez-vous, on a parlé d'Abraham qui, sans le savoir, a hébergé des anges. Il a exercé tout simplement l'hospitalité sans savoir au début qu'il recevait des anges, sans le savoir. Donc on s'est focalisé sur cela dimanche dernier et dans ses actes de fidélité, dans ses actes de tous les jours, dans le quotidien de nos journées, il y a des choses que nous pouvons faire et qui sans le savoir viennent de Dieu et qui sans le savoir peuvent avoir des répercussions énormes. Et ce matin, j'aimerais donner une suite, j'allais dire une suite logique à ce message, c'est que nous allons parler des choses qui sont insignifiantes et qui produisent de grands effets. Des choses insignifiantes et qui produisent de grands effets. Alors, pour joindre les deux messages de dimanche dernier et d'aujourd'hui, je dirais que sans le savoir, nous faisons des choses extraordinaires avec des choses insignifiantes. Et ça nous encourage. En tout cas, quand je lis cette parabole, je suis très encouragé dans la foi, sachant qu'avec des choses qui semblent à nos yeux rien, presque méprisables, insignifiantes, avec ce que nous avons entre nos mains qui semble dérisoire par rapport à tout ce qu'il y a à faire, lorsque cela est exercé et mis en pratique dans la foi, avec ces peu de choses-là, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Dans cette parabole, Jésus nous parle d'un grain de sénevé. Alors par curiosité, j'ai regardé quelle taille pouvait avoir un grain de sénevé. C'est tout petit, la moitié d'un grain de riz, ou peut-être, tout dépend le grain de riz qu'on prend, hein, bien sûr, ou même un tiers de grain de riz. Donc c'est vraiment tout petit. Et avec ce tout petit-là, on voit que ça devient un arbre à tel point que eh bien, les oiseaux peuvent s'y abriter. Ça va produire un arbre qui va dépasser tous les autres légumes, et qui va à peu près faire 4 mètres de haut, et c'est un arbre assez touffu. On comprend pourquoi les oiseaux aiment bien s'y abriter si ça devient un arbre assez touffu. Alors 4 mètres, vous allez me dire, c'est pas énorme. Il y a bien des arbres qui font des dizaines de mètres de haut. Parlons du chêne. Alors, je me suis amusé, j'ai pris ma calculatrice, je me suis amusé à faire une comparaison parce qu'on sait qu'un chêne, c'est fait avec un gland. C'est quand même bien plus grand qu'un grain de sainlevé, et je me suis amusé à faire une proportion. Et si le gland avait la même potentialité de croissance qu'un grain de sainlevé, ça nous ferait un chêne, tenez-vous bien, d'entre 400 et 500 mètres de haut, plus grand que la Tour Eiffel. Alors là, je me suis dit, quand même, ce petit arbre de 4 mètres, là, il vient de loin, hein. Une toute petite semence qui va produire un arbre de 4 mètres, bon. Mais quand on le compare aux autres, on voit que c'est bien plus grand. Donc tout ça pour dire que ces choses qui nous paraissent insignifiantes peuvent produire des choses qui sont extraordinaires. Et le Seigneur nous a confié une mission aux uns et aux autres. On pourrait dire, on va attendre le temps d'avoir tous les éléments pour pouvoir commencer. Ben, le Seigneur pourrait nous dire, mais qu'est-ce que tu as déjà ? Commence par faire avec ce que tu as déjà. On va dire, oh, mais non, mais ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas assez par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Commence par ce que tu as déjà. Alors peut-être à nos yeux c'est méprisable, insignifiant. Il y a là un champ qui est là et on pourrait bien sûr voir ce que le Seigneur dit dans d'autres paraboles par rapport à la semence. On sait que la semence, il compare la semence à la parole de Dieu, mais aussi dans une autre parabole, on voit que Jésus compare la semence au fils du royaume. Au fils du royaume. Il dit encore dans une autre parabole que le champ, c'est le monde. Et c'est vrai que nous voulons considérer vraiment que nous avons une mission dans ce monde. C'est notre champ. C'est notre champ. Et avec ce que nous avons, avec la parole de Dieu, avec ce que nous sommes, puisque nous sommes aussi regardés eh bien, comme étant de la semence, eh bien, nous pouvons, j'allais dire, atteindre ce monde que Dieu... Que Dieu soit béni. Le royaume de Dieu, dira Jésus, ne vient pas de manière à frapper les regards. J'aimerais prendre quelques exemples. Dans le livre du prophète Daniel, le roi Nebuchadnezzar va faire un premier rêve. Ce rêve a un caractère prophétique par rapport au temps des nations. Il va, dans son rêve, voir cette statue d'une allure colossale avec la tête d'or. Vous connaissez ce passage de Daniel chapitre 2. Il y a cette poitrine et les épaules qui sont en argent, et puis après c'est en airain, les jambes, et puis les pieds sont en partie de fer et d'argile. Alors là, eh bien, on apprend dans l'explication que donne Daniel de ce rêve qu'il est question des nations avec l'empire babylonien, etc., etc. Et après, dans son rêve, il voit une pierre, à un moment donné, une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Et cette pierre, à elle seule, qui au départ n'est pas très grande, va renverser cette statue qui est colossale. Et cette petite pierre va devenir une montagne, une énorme montagne. Et Daniel donne l'explication, il donne l'explication de ce rêve. C'est vrai que les royaumes de ce monde se succèdent les uns après les autres. Les empires de ce monde se succèdent les uns après les autres. Le royaume de Dieu, qui paraît insignifiant aux yeux des êtres humains, est comme cette pierre qui va remplir toute la terre, et nous le savons, le royaume de Dieu, lui, ne passera pas. Le royaume de Dieu ne passera pas. Il y a eu des empires dans ce monde qui se sont écroulés, on ne pensait pas qu'ils ne s'écrouleraient parce que, voilà, ils avaient une armée forte, ils avaient une puissance économique, comme aujourd'hui encore, il y a des empires, il y a des nations qui sont fortes, et l'actualité nous le montre bien. Mais tous ces royaumes-là sont appelés à disparaître sous l'action de notre Seigneur qui seul tient le monde entier d'entre ses mains. Comme quoi, je dirais, pour revenir à notre message, je ne vais pas parler des temps des nations, mais pour dire que des choses qui paraissent insignifiantes peuvent faire chavirer des choses qui aujourd'hui nous paraissent énormes, nous paraissent immenses. Prenons un autre exemple. Le peuple d'Israël, nous savons, a traversé les siècles, pour ne pas dire les millénaires. Encore aujourd'hui, le peuple d'Israël est là. Non seulement elle a traversé les siècles et les millénaires, mais a traversé mille et une épreuves. Plusieurs fois menacée d'extinction, plusieurs fois des rois de ce monde, des grands de ce monde ont voulu éradiquer ce peuple. Mais ce peuple est toujours là. Comment est né ce peuple ? D'un vieil homme. Il avait quel âge ? 100 ans. Et son épouse, elle aussi avait passé l'âge d'avoir de l'espoir encore, d'avoir un enfant. Donc on voit que de deux personnes déjà usées de corps, âgées, est né un peuple qui a traversé les millénaires, qui a traversé mille et une épreuves. Nous pourrions allonger la liste des choses insignifiantes qui ont des répercussions extraordinaires. J'aimerais encore donner l'exemple de la prière d'Élie dans 1 Rois chapitre 18. Il n'a pas plu depuis 3 ans et demi. Le prophète Élie va dire au roi Achab de se préparer, de monter, etc., parce qu'il s'annonce un bruit qui annonce la pluie. 3 ans et demi de sécheresse. Pas un nuage à l'horizon, pas un seul. Le ciel est bleu de pluie, 3 ans et demi. Il n'y a plus rien comme végétation. On peut s'imaginer ce que 3 ans et demi de sécheresse peuvent produire. Que va faire le prophète Élie quand il sait que c'est le moment d'implorer l'Éternel ? Élie, notre prophète, va s'asseoir, il va mettre sa tête dans ses genoux et il va prier le Seigneur. Est-ce qu'on entend sa prière ? Non. On n'entend même pas. Il le prie dans son cœur. Et à chaque fois, il dit, mais va regarde à l'horizon. Et à chaque fois, il n'y a pas le moindre nuage qui arrive. Et puis, à la 7e fois, on lui dit, eh bien, oui, il y a un nuage à l'horizon qui arrive. Et puis, ce nuage a commencé à envahir tout le ciel et a apporté une pluie abondante. Tout a commencé par une prière qui semblait tout à fait insignifiante du prophète Élie. On ne l'entendait même pas. Comme quoi, ce n'est pas la tonalité ou le volume de la voix qui fait l'onction. Il y a là une prière simple, faite dans la foi, puisqu'il est dit dans l'épître de Jacques que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et pour illustrer son propos, Jacques, parlant de cette prière fervente, va dire « Regardez le prophète Élie. C'est lui qui a prié pour qu'il pleuve et la pluie est venue. » Or, quand on voit cette prière, elle est toute simple. Toute simple, mais faite dans la foi. La prière du juste a une grande efficacité. Et c'est vrai que toutes nos prières qui sont faites là, ne méprisons aucune prière. Non seulement que nous avons pu faire, mais que nos frères et sœurs ont pu faire. Il y a des simples prières, et parfois même des prières qu'on n'a même pas entendues, comme celle du prophète Élie, qui sont montés dans le cœur sans que personne l'entende, mais que Dieu a entendu, et il va, avec cette prière, faire des exploits, parce que Dieu entend nos prières, il entend la voix de nos larmes. Alors nous ne voulons mépriser aucune de ces prières. J'aimerais, avec vous, lire dans le prophète Zacharie, au chapitre 4, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 4, verset 6. Gloire à toi, Jésus. Alors, il reprit, il me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Le peuple, une partie du peuple du moins, est revenu de l'exil à Babylone. Tout cela, bien sûr, conduit par le Saint-Esprit. Une des premières choses qu'ils vont faire et qu'ils vont avoir à cœur de faire, c'est bien sûr la reconstruction du temple de Jérusalem qui a été détruit, incendié, ravagé par l'empereur Nebuchadnezzar. Il ne reste rien. C'est un travail titanesque, colossal. Ils sont là une poignée d'hommes, sans grands moyens, puisque on sait que le reste du peuple qui était resté en Israël est dans la désolation, dans une grande pauvreté. Et il leur faut reconstruire ce temple qui a une taille immense. Comment faire? En plus, ils ont des ennemis, des gens qui s'opposent à cette reconstruction du temple. Et le peuple va se décourager. Il faudra deux prophètes, Agé et Zacharie, vous pourrez lire ces deux prophètes qui sont contemporains de Zorobabel, et ces deux prophètes vont encourager le peuple à reconstruire ce peuple qui est découragé. Du coup, comme ils sont découragés, chacun s'en va dans ses propres affaires. Chacun construit sa propre maison, comme dira le prophète Agé, alors que la maison de l'Éternel est complètement abandonné. Tout cela vient d'un découragement et puis ce découragement a provoqué un désintérêt. Et ces deux prophètes vont tout à nouveau encourager Zorobabel, mais pas que lui, on le sait, il a aussi encouragé Josué, le souverain sacrificateur. Ici, on voit que certains méprisaient les faibles commencements. Ils voulaient commencer le peuple, mais avec quoi on va commencer? Il nous faut des pierres, il nous faut des outils, il y a tellement de choses quand on voit comment est construit le temple, et puis ce n'était pas un petit bâtiment. Ce n'est pas un petit bâtiment, c'est quelque chose de colossal. Et comment on va y arriver? Comment on va y arriver? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains vont l'achever. Et au fur et à mesure de la construction, Dieu va pourvoir. Dieu va donner les ouvriers, Dieu va donner les outils, Dieu va donner les matériaux, les pierres, le bois nécessaires pour construire, reconstruire ce temple. Et ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, ils ont commencé avec quoi? Ils ont commencé avec pas grand-chose. Ils ont commencé, je dirais, avec qui aussi? Avec qui? Avec peu d'hommes. Mais ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements vont se réjouir en voyant le niveau dans la main de Zorobabel parce que ces mains-là vont achever la construction du temple. Et nous voyons encore avec ce sujet-là qu'avec des choses insignifiantes, qu'avec des personnes que l'on méprise, avec des personnes qui nous paraissent insignifiantes, Dieu peut faire des exploits parce que c'est son esprit qui agit. Alléluia! Et ça m'encourage pour tous les projets de l'Église, pas vous? Alléluia! J'aimerais entendre un grand amen. Est-ce que ça nous encourage pour tous les projets de l'Église? Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. Et pour enfoncer le clou, j'aimerais lire encore deux autres passages dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Et verset 15, « Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Asie et qu'elle s'est dévoué au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. On va revenir sur cette famille de Stéphanas, mais on sait que cette famille est les prémices de l'Achaïe. Et puis nous lisons dans, au début de cette épître, 1 épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 26. Verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Et il en est toujours ainsi. Parce que les principes du royaume de Dieu n'ont pas changé. Les principes du royaume de Dieu n'ont pas changé. Encore aujourd'hui, Dieu choisit les choses folles du monde. Encore aujourd'hui, Dieu choisit les choses faibles du monde. Encore aujourd'hui, Dieu choisit les choses qu'on méprise. Les choses qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, pour confondre les sages, pour confondre les choses fortes de ce monde. Dieu emploie des hommes et des femmes tels que nous pour confondre les grands de ce monde, pour terrasser les forteresses de l'ennemi. Stéphanas, la famille de Stéphanas. Prémisse de l'Achaïe, une région de l'Empire romain de l'époque. Cette région qui a connu un réveil extraordinaire, avec des conversions, avec des miracles, est venue par une famille, toute simple. Je veux dire, ce n'est même pas l'apôtre Paul, même pas l'apôtre Pierre, qui sont les prémices de l'Achaïe, mais une famille. Une famille qui, à elle seule, ont été ses prémices. Je parlais tout à l'heure de cette parabole où Jésus nous présente comme les fils du royaume quand étant la semence qui est semée dans ce monde. Et parmi ces semences, il y a la famille de Stéphanas. Le Seigneur a pris ces semences-là et les a jetées sur le champ de l'Achaïe. Et qu'est-ce qui s'est produit? Alléluia! Comme dans la parabole du grain de sénévé, cela a produit quelque chose de phénoménal. Avec cette simple famille, Dieu a réussi à toucher toute l'Achaïe. Et nous bénissons le Seigneur, car encore aujourd'hui, Dieu agit toujours de la même manière. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et avec cette poignée d'hommes et de femmes que nous sommes, Dieu peut atteindre cette région. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes plus nombreux que la famille de Stéphanas. En plus, on a un avantage. Alléluia. À moins que c'était vraiment une grande famille, mais je ne pense pas. Merci Seigneur. Et ça nous encourage dans la foi. Parce qu'on pourrait dire, ah mais qu'est-ce que nous sommes? Et on est faibles. Les gens nous méprisent, etc. On ne pourra jamais, face à tous ces besoins qui sont là, on ne pourra jamais arriver à bout de notre mission. Mais c'est Dieu qui le fait, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par son esprit. Et l'apôtre Paul dira, afin que personne ne se glorifie. Parce que si vraiment ça venait de nous, on pourrait se glorifier. Déjà qu'on a tendance à ça, parfois, à se glorifier. Alors si en plus ça venait de nous, non. Sans le savoir, nous faisons des choses extraordinaires avec des choses et des personnes insignifiantes. J'ai parlé un petit peu de la semaine dernière de la multiplication des pains. J'aimerais y revenir depuis quelques semaines. Mes regards se sont portés souvent sur cette multiplication des pains. Et j'aimerais avec vous lire juste deux versets dans Jean chapitre 6, verset 9. Jean 6, verset 9, tout le début du chapitre 6 nous parle de la multiplication des pains et des poissons. Et au verset 9, il est écrit ceci, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. On va s'arrêter là, vous connaissez cette histoire. Comme je le disais, depuis quelques semaines, plusieurs fois, mes regards se sont portés sur ce miracle de la multiplication des pains et des poissons. On sait qu'il y a eu deux, dans le ministère de Jésus, il y a eu deux multiplications de pains et de poissons. Quand on lit les évangiles, on voit qu'il y en a eu deux. Et la première ne leur a pas suffi, il a fallu que le Seigneur en fasse une deuxième. Et même à la deuxième, ils étaient encore dans l'incrédulité. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces milliers de personnes qui sont devant nous? Alors, comme j'ai plusieurs fois regardé ce miracle, j'ai un petit peu étudié et puis comparé dans tous les évangiles. Et puis, il y a des précisions qui sont très intéressantes et qui, encore aujourd'hui, eh bien, nous intéressent de près. On voit, par exemple, que Jésus a fait asseoir, on voit ça dans l'évangile selon Marc, que Jésus a fait asseoir cette foule par rangée de 50 et de 100. Le Seigneur n'est pas contre l'organisation. On le voit, le Seigneur a organisé les choses. Quand on arrive parfois dans certains lieux avec de l'aide humanitaire, on le voit parfois dans certains pays, quand ces camions humanitaires arrivent, ça crée une cohue dans la population. Et parfois, ils se bousculent, ils s'arrachent les colis alimentaires, etc., etc. Ici, Jésus, pour éviter toute cohue, les a fait asseoir, comme ça ils étaient tranquilles. Et puis, pour faciliter la distribution, ils se sont assis par groupe de 50 et de 100. Bon, ça, c'est pour le côté organisation. En plus, il a pris soin d'eux, puisqu'il les a fait asseoir sur l'herbe. Sur l'herbe, on voit ça aussi dans d'autres évangiles, l'herbe était verte. Probablement que l'épisode s'est passé, alors peut-être pas pour les deux, mais au moins pour celui-là, eh bien, soit au printemps, soit à l'automne, puisque ces régions sont en été assez sèches. En tout cas, bref. Et puis, il y a une précision quand même intéressante, c'est qu'il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, l'orge est un céréale très nourrissant, 5 pains d'orge et 2 poissons. Qui était ce jeune garçon? Vous allez me dire, on ne le sait pas. Effectivement, on ne le sait pas. Mais est-ce que l'on confie, ou bien se mettre dans ce pays-là, à l'époque, est-ce que l'on confie à un jeune garçon la nourriture? Bon, là, c'est une question qu'on peut se poser. En cherchant, en creusant les choses, je me suis aperçu que 5 pains d'orge et 2 poissons, c'était à peu près la nourriture que l'on donnait aux orphelins à l'époque pour la semaine. Autrement dit, il est fort probable que ce jeune garçon, puisque c'est lui qui avait la nourriture et pas sa maman ni son père, soit un orphelin, et on sait qu'il y avait des enfants qui suivaient Jésus, il y avait même des enfants qui ont crié dans le temple, Hosanna au fils de David, et cela a provoqué d'ailleurs la colère de certains religieux. Mais Jésus a tressailli d'allégresse en disant « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce siècle et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc on voit encore là ce principe des choses que l'on méprise, des choses qui paraissent insignifiantes, mais Dieu est glorifié par les enfants. Amen. Dieu est glorifié par les enfants. Alors, il est fort probable que cet enfant soit un orphelin qui était là. Ils étaient nombreux et il y avait à l'époque des systèmes d'aide pour les enfants orphelins. On parle souvent dans la Bible de la veuve et de l'orphelin. Il y avait des systèmes d'aide pour les orphelins et les veuves. Et donc, c'est à peu près la ration que l'on donnait pour la semaine à un orphelin. 5 pains d'orge et 2 poissons. Il devait faire la semaine avec ça. Et si ça lui manquait, après, c'était système D, il fallait qu'il se débrouille pour compléter sa nourriture. Autrement dit, ce jeune garçon, à donner sa ration de la semaine. Alors nous, ça nous paraît, bon, 5 pains d'orge et 2 poissons, pour nous, c'est rien. Et d'ailleurs, ça a été la réaction des disciples. On voit ça quand on regarde dans les autres évangiles. Qu'est-ce que cela pour 5000 hommes ? 5 pains d'orge et 2 poissons, c'est rien. C'est insignifiant pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc ça paraît tout à fait insignifiant, apporté par un jeune garçon. Mais pour lui, c'était quand même sa nourriture de la semaine. Et avec ça, on voit que le Seigneur a nourri 5000 hommes. Alléluia. Alors, avons-nous 5 pains d'orge chez nous, 2 poissons ? Peut-être nous avons bien plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, apportons-lui ce que nous savons faire, déjà, avant de parler des choses qu'on ne sait pas faire. Apportons-lui ce que nous avons, avant de dire « Ah, ben si j'avais ça, je pourrais donner ça. » On apporte ce qu'on a déjà. Et avec ce qu'on a déjà, le Seigneur, lui, il fait des exploits parce que c'est par son esprit. C'est par son esprit que son nom soit glorifié. Je vais terminer mon message en parlant de Jésus. J'aurais pu commencer par cela, car c'est le plus important, il est vrai, mais j'ai voulu terminer par cela pour vraiment que nous partions dans nos cœurs avec l'exemple de Jésus. Nous savons que Jésus est le roi de gloire, qu'il est le grand vainqueur, qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et qu'un jour, tout genou fléchira devant lui. Il roulera la terre et les cieux comme on roule un livre. Il est celui qui a créé toutes choses, cet univers, cette terre. Il est celui qui est le grand créateur de toutes choses. Alléluia. Il nous dépasse, il nous transcende. Pour autant, j'aimerais que nous puissions porter nos regards sur Jésus, au chapitre 53 d'Ésaïe. Vous connaissez bien sûr, peut-être même par cœur, ce chapitre 53 d'Ésaïe. On va lire juste le début. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ah, j'aime bien ce cependant. Hein. On va pas lire la suite, mais on a bien compris. Jésus, le roi des rois, les Juifs attendaient le Messie, leur roi. Il est venu, mais ils l'ont trouvé tellement insignifiant, tellement méprisable. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un peu, au départ, la pousse du grain de sénévé qui est là. C'est rien, ça. C'est rien. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est-à-dire une terre qui produit pas grand-chose ou presque rien. Un rejeton qui terre d'une terre desséchée. C'est-à-dire, c'est pas avec ça qu'on va se nourrir. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il y a des grands de ce monde qui ont beaucoup d'éclat, beaucoup de beauté. Ils en imposent par leur richesse, ils en imposent par leur savoir, etc. Mais Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pff, ça vaut rien, ça, il vaut rien, cet homme. il a paru insignifiant pour tout le monde. Cependant, c'est lui le Messie. C'est lui le roi de gloire. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Puissions-nous vraiment le comprendre cela ? Et ce principe-là est toujours d'actualité encore aujourd'hui. Le principe du royaume de Dieu n'a pas changé. Jésus aura le dernier mot. Un jour, tout genou fléchira devant lui et reconnaîtront celui qu'ils ont perché. Mais à ce moment-là, qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Et dans ces choses insignifiantes que nous pouvons faire dans la fidélité, dans la foi, qui reconnaît l'œuvre de Dieu dans ces choses-là ? Au départ, « Oh non, mais non, ça vaut rien, ça. » Et si, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose parce que c'est entre les mains du Seigneur. Alors que le Seigneur soit béni, alléluia, frères et sœurs, sans le savoir, nous faisons des choses extraordinaires avec des choses insignifiantes et des personnes insignifiantes que nous sommes les uns les autres. Mais nous savons que le Seigneur est celui qui nous accompagne et que c'est son esprit qui fait tout le reste. Que Dieu soit béni. On va prier ensemble notre Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour la foi que tu mets dans nos cœurs, pour les encouragements que tu nous donnes à tout et à chacun. Seigneur, nous ne voulons pas nous lamenter, nous ne voulons pas, Seigneur, nous lamenter sur nous-mêmes, Seigneur, nous apitoyer, Seigneur, en pensant que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien faire. Mais nous voulons regarder à toi. Il est vrai, Seigneur, que nous ne sommes rien, que nous sommes ces choses méprisables, ces choses folles de ce monde. Mais c'est avec nous, Seigneur, que tu travailles. Alors nous te bénissons, Seigneur, comme tu as œuvré en son temps avec les mains de Zorobabel, avec ce que t'avait apporté ce jeune garçon. Oh, à toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais encore aujourd'hui, Seigneur. C'est toi qui reçois nos cœurs, qui reçois nos prières et nos louanges. Tout ce que nous pouvons t'apporter, ta main nous l'a donné auparavant, Seigneur. Oh, à toi soit toute la gloire, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas encore au reste de tout ce que nous avons pu voir, Seigneur, avec toi. Mais, Seigneur, nous savons qu'il y a des choses excellentes et merveilleuses qui sont devant nous, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Bon dimanche à chacun.